Bienvenue dans l'émission Histoire et mémoire, je suis Damien Chantraine, conservateur du musée d'art et d'histoire de Dreux, et aujourd'hui j'ai le bonheur de vous retrouver pour vous parler du voyage à pied de Victor Hugo depuis Paris jusqu'à Dreux. Alors, pourquoi aujourd'hui précisément ? Eh bien, pour une simple et bonne raison, c'est que nous fêtons le bicentenaire de ce voyage qui a eu lieu en juillet 1821. Nous sommes donc encore dans ce bicentenaire avec l'année 2021 qui néanmoins va s'achever bientôt. Il s'agit aussi de vous parler d'une grande exposition qui a lieu au musée d'art et d'histoire de Dreux, justement sur cette question du voyage de Victor Hugo depuis Paris à Dreux à pied. Et cette exposition, eh bien, j'ai eu le bonheur de la monter avec Stéphane Bern qui nous a accordé sa généreuse et aimable collaboration. C'était un plaisir de travailler avec lui à la sélection des dessins et des gravures qui illustrent le voyage de Victor Hugo raconté par un historien local qui s'appelle Charles Le Ménestrel en un vibrant témoignage qui est relaté dans les salles d'exposition. C'est-à-dire, si vous venez voir l'exposition, vous lirez l'œuvre de Charles Le Ménestrel qui vous accompagne donc dans la découverte de ce qu'a été cette épopée, cette aventure pour Victor Hugo. Et en même temps, vous pourrez voir l'illustration de ce voyage grâce aux dessins et aux gravures sortis de nos réserves. Alors, ce ne sont pas des dessins et des gravures de Victor Hugo lui-même. Même si on aurait bien voulu, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de découvrir aussi des œuvres qui sont dans nos réserves, qui n'ont jamais été présentées. Et un peu comme dans une bande dessinée, eh bien, nous associons texte et images pour cette découverte ensemble que je vous propose de retracer aujourd'hui.
Moi jolie,
quoi de surprenant à cela?
Quelle folie, on ne m'avait jamais dit ça.
Vraiment,
vraiment,
jamais,
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 non, de ma vie.
Jamais,
jamais.
Et bien en te voyant,
en me voyant,
en te voyant, moi je me l'étais dit souvent,
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 de moi,
de toi,
de moi.
En te voyant, moi je me l'étais dit souvent. Je me disais, quand tu passais, rose les yeux, le front d'un ange, il règne en air. Un charme étrange, je le disais, quand tu passais.
Tu le disais?
Quand tu passais.
À moi, Sylvain, toi tu pensais.
Alors Victor Hugo et Dreux, eh bien c'est avant tout une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'un jeune homme d'abord, parce que Victor Hugo, en 1821, il a 20 ans. Donc un jeune homme qui est éperdument amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Adèle Fouché. Adèle Fouché, vous devez connaître son nom parce que l'un des quais de Dreux, des quais de Bordeblaise, est nommé Adèle Fouché. Alors cet énigmatique personnage, eh bien, c'est la personne qui deviendra sa femme quand même en 1822 à Victor Hugo et qui lui donnera d'ailleurs plusieurs enfants. C'est donc une personne importante dans l'histoire de ce jeune auteur qui grandira, qui donnera une œuvre considérable, représentée notamment par quelques romans magnifiques comme Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables, et puis quelques poésies exceptionnelles qui fait de ce Victor Hugo l'un des plus grands génies des temps modernes, ce grand génie qui est passé par Dreux. Et je dirais que ce voyage de Victor Hugo à Dreux est loin d'être artificiel. C'est un voyage qui est fondamental pour le poète, pour l'écrivain, mais aussi pour le défenseur du patrimoine qu'il sera à l'avenir. D'ailleurs, lorsqu'il revient à Paris, Victor Hugo, un petit peu plus tard, il écrira à Adèle Fouché une lettre poignante, une lettre vraiment amoureuse encore une fois, qu'il conclura par ces mots « À Dreux, toute ma vie s'est décidée ». Alors pourquoi toute sa vie s'est-elle décidée à Dreux ? Eh bien d'abord parce que c'est un voyage initiatique. On ne fait pas, à son âge, Paris-Dreux à pied, sans avoir à réfléchir en chemin. D'abord, ce voyage lui a pris 3 jours, avec des escales, des étapes, l'une à Versailles, l'autre à Oudan, la dernière à Chérisy, la veille de son arrivée dans notre bonne vieille ville, dans notre bonne vieille cité royale. Victor Hugo, à cette époque-là, vient de perdre sa mère. Donc c'est un homme qui est encore dans la mort d'un être qui lui est cher et qui va connaître, je dirais, sa première vague romantique mêlée de cette mort proche et de cette histoire d'amour qu'il va rejoindre. On a tous vécu ça au débouché de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Partir pour réfléchir à ce que sera son avenir. Il y a quelque chose ici de fortement mélancolique et à la fois de fortement puissant dans ce que va structurer l'avenir de ce jeune homme. Je dirais qu'il arrive à Dreux. Il arrive à Dreux d'abord sale de son voyage. Parce que voyager 3 jours à pied, sans pouvoir vraiment se laver, quand on arrive dans une ville comme Dreux, on éveille les soupçons. Et surtout, il éveille les soupçons du commissaire de police qui le croise. Ah oui, ce commissaire de police de l'Écluse. Eh bien, de l'Écluse va l'arrêter, tout simplement parce qu'il avait l'ordre d'arrêter tout étranger à la ville. Dreux est à cette époque-là, et encore aujourd'hui, à la frontière d'un espace francilien. Mais l'espace francilien, à ce moment-là, était interdit aux anciens bagnards, aux forçats, qui finalement se retrouvaient assez régulièrement à Dreux. Donc le commissaire de police fait son travail et lui dit « Jeune homme, vos papiers, s'il vous plaît !» Victor Hugo, comme c'est un poète, avait complètement oublié ce genre de détails administratifs pour son voyage. Donc il n'avait pas de papiers sur lui. En revanche, il se souvenait qu'un ami lui avait parlé de sa tante, une certaine Madame Lebrun, qui pourrait lui porter secours en cas de problème. Et il a eu raison, parce que il a dit au commissaire, ne m'emmenez pas en prison, conduisez-moi plutôt chez Madame Lebrun, qui va répondre de moi. Et Madame Lebrun, en effet, l'a accueilli pour le dîner, le protégeant donc de la prison, du bagne de Dreux, qui se trouvait à cette époque au débouché de la rue Aulet, actuelle rue Godot, qui donc débouche sur la place Rotrou, qui n'existait pas à l'époque. Le commissaire de l'Écluse, il est important à plusieurs égards dans l'œuvre de Victor Hugo. D'abord parce que je pense qu'il a eu une grosse frayeur, ce jeune homme, et puis ensuite parce qu'il inspire plus tard la figure de Javert dans Les Misérables. Vous voyez à quel point finalement cette histoire de Dreux va construire l'imaginaire du jeune auteur et va le construire pour longtemps. Ensuite, c'est l'histoire d'amour qui est importante, qu'on va retrouver, qui va traverser l'œuvre complète de Victor Hugo. À la fois les poésies mais aussi les romans et bien entendu Notre-Dame de Paris. Avec Esmeralda et Quasimodo et Frolon qui va tenter de s'opposer à cette union qu'il considère indélicate, mais surtout parce qu'en fait il est très attiré par la jeune fille belle et moustillante qu'est Esmeralda. Bref, c'est cet amour à la fois physique et un amour aussi, je dirais, mental, spirituel, qui le prend au corps et au cœur, ce jeune homme qu'est Victor Hugo, qui se dessine. Et en fait, il se promène dans les rues de Dreux, jusqu'à l'apercevoir à la fenêtre d'une maison, en réalité, non loin de chez Madame Lebrun d'ailleurs. Victor Hugo rencontre donc Adèle Fouché et va défendre l'union qu'il souhaite avec elle auprès de la famille d'Adèle Fouché. Il va réussir, puisque je vous ai dit en introduction de cette intervention aujourd'hui, qu'il allait s'unir, qu'il allait se marier à Adèle Fouché en 1822. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette histoire de la sauvegarde du patrimoine. Victor Hugo, c'est un grand défenseur du patrimoine. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage fabuleux que je vous invite à lire et qui est très peu connu dans son œuvre, qui s'appelle « Guerre aux démolisseurs », parce que Victor Hugo constate que certains monuments sont en ruine en France du début du XIXe siècle. Alors, on pense tout de suite à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, à l'époque de Victor Hugo, c'est Notre-Dame qui est abandonnée, je dirais, qui est un monument médiéval vieillissant, dont les pierres s'effritent, tombent même, et qui n'est pas restaurée. Alors évidemment, pour nous, cette histoire-là, elle a un retentissement particulier parce qu'on pense à l'incendie récent dont on reconstruit encore Notre-Dame sur les cendres avec la disparition de la fameuse flèche édifiée par Viollet-le-Duc, qui n'existait pas à l'époque de Victor Hugo, et pour cause, parce que ce monument, qui était encore très fragile en son temps, eh bien lorsqu'il a écrit Notre-Dame de Paris, il n'y avait encore aucune ambition de le restaurer. C'est plus tard, en vérité, que Viollet-le-Duc va s'attacher à reformer ce monument comme une sorte d'idéal de ce que doit constituer la cathédrale médiévale, mais façon 19e siècle, tout de même. Mais les ruines, les premières ruines de Victor Hugo, eh bien c'est à Dreux. En vérité, Victor Hugo arrive à Dreux et il s'attache à regarder les monuments de la ville. Il envoie d'ailleurs une lettre à l'un de ses amis, qui est hautement reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands poètes de son temps, c'est Alfred, je dis comme ça parce qu'il l'appelle ainsi, mon cher ami, mon cher Alfred, il s'agit d'Alfred de Vigny. Il lui envoie une lettre depuis Dreux, le 20 juillet 1821. Et maintenant, je vais vous faire la lecture d'une partie de cette lettre, et vous allez pouvoir considérer d'abord que Victor Hugo est un bon marcheur, et ensuite qu'il s'attache à la description des ruines de la ville. « Mon cher ami, me voici donc ici depuis hier, visitant Dreux, et me disposant à prendre la route de Nonancourt, un proche village de Dreux. J'ai fait tout le voyage à pied, par un soleil ardent et les chemins sans ombre d'ombre. Je suis harassé, mais tout glorieux d'avoir fait 20 lieues sur mes jambes. Je ne vous cite pas tout, mais il finit ce paragraphe en disant « Cette expérience m'a prouvé qu'on peut marcher avec ses pieds. » Alors les ruines maintenant, eh bien, les ruines qu'il décrit sont des ruines anciennes, ne sont pas des ruines issues de la Révolution française, ce sont les ruines du château de Dreux qui, finalement, la destruction du château de Dreux a été très anticipée. Elle date du deuxième siège d'Henri IV en 1593, pour affaiblir cette ville de Dreux qui était, à l'époque d'Henri IV, aux mains des ligueurs catholiques. Henri IV, le roi protestant, avait dû donc intervenir avant de siéger sur son trône pour démanteler la ville. Et pour l'affaiblir, il avait rasé en partie la forteresse qui subsiste encore de nos jours. Si on regarde en direction de la chapelle royale depuis le centre-ville de Dreux, on s'aperçoit que la chapelle royale siège sur ces ruines qu'a vues Victor Hugo. Et il dit « Il n'y a pas d'autres ruines que celles du château de Dreux. Je les ai visitées hier soir et, ce matin, je les visiterai encore ainsi que le cimetière. Ces ruines m'ont plu. Figurez-vous, sur une colline haute et escarpée, de vieilles tours de cailloux noyées dans la chaux, décrénelées, inégales, et liées ensemble par de gros pans de murs où le temps a fait encore plus de brèches que les assauts. » Ah, c'est du Victor Hugo. Dans la lettre, c'est du Victor Hugo savoureux, mêlant les affres du temps à une écriture déjà sûre. Au milieu de toutes ces pierres, dit-il, des champs de luzerne et au-dessus de tout, un télégraphe, à côté duquel on construit la chapelle funèbre des d'Orléans. Alors, ça mérite quelques explications. Un télégraphe, pourquoi ? Ben, simplement parce que, en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas le téléphone. Donc, on communiquait par ce biais-là. Et Dreux se situait sur une ligne télégraphique allant de Paris à la Bretagne. Donc, c'était une étape importante de la télécommunication, les premiers temps de la télécommunication. Donc, cette tour télégraphique, qui n'existe plus aujourd'hui, elle s'élevait presque à la place du donjon du château. Et il dit de la chapelle funèbre des d'Orléans, qui constitue aujourd'hui notre chapelle royale, dans son premier état, c'est-à-dire qu'à cette époque, elle est encore en construction, et elle va ressembler, quelques années plus tard, à une sorte de temple grec. Et elle va prendre, encore plus tard, sous Louis-Philippe, une forme néo-gothique. Viollet-le-Duc étant passé par là, mais aussi l'héritage du Gothic Revival de l'Angleterre que Louis-Philippe avait vu dans son exil, eh bien, va reconfigurer le visage de la chapelle royale telle que nous la découvrons actuellement. Mais à cette époque-là, elle est en construction sous la forme d'un temple grec. Et il dit « Cette chapelle blanche et inachevée contraste avec la forteresse noire et détruite. C'est un tombeau qui s'élève sur un palais qui croule. » Du pied de la tour télégraphique, on voit dans le vallon de l'ouest des croix de bois, des pierres minées et debout, des touffes d'arbres, c'est le cimetière. Dans le vallon de l'est, c'est la ville. Aussi, les deux vallées sont différemment peuplées. Donc, on imagine ici Victor Hugo, quand même, qui, non sans ironie, relève que la ville de Dreux est peuplée tant par les vivants que par les morts. Et ici, on est vraiment dans la problématique et celle de Victor Hugo, c'est-à-dire que lui-même se situe à la charnière, dans son voyage à Dreux, du monde des morts, qui est symbolisé par celui que lui évoque forcément la disparition encore proche de sa mère, et celui des vivants, c'est-à-dire celui du jeune homme qui va retrouver son amour et le vivre pleinement par la suite. Voilà. Il regrette aussi qu'à Dreux, il n'y ait aucun monument druidique. En fait, il ne voit pas ni de dolmen ni de menhir à Dreux, alors qu'il dit bah, « Dreux a donné son nom aux druides et ils ne lui ont laissé point de vestige. J'en suis fâché pour eux, pour la ville et pour moi. » Il ajoute aussi « Les bords d'une petite rivière où je me suis baigné hier en arrivant sont très frais. Je m'y promenais tout à l'heure sous les trembles et les bouleaux. » Et pensez à tous nos amis qui sont ensemble dans cette grande vallée, la vallée de la mort, et nous oublient peut-être entre eux. Voyez la relation, encore une fois, entre la vallée des morts et la vallée qu'il a côtoyée peu avant son arrivée à Dreux, la vallée de Chérisy.
Thank you.
Épilogue. En 1866, l'écrivain Charles Le Ménestrel, qui raconte l'histoire de Victor Hugo, que vous pouvez lire dans le cadre de l'exposition qui a lieu au Musée d'art et d'histoire jusqu'au 18 décembre, Charles Le Ménestrel écrit à Victor Hugo. Et Victor Hugo lui répond. Hosfield House, puisqu'il est à Guernesey à ce moment-là, en exil, « Je m'empresse, monsieur, dit-il, d'avoir l'honneur de vous répondre. Je n'ai aucun souvenir des petits vers inédits dont vous me parlez. Petits vers que Victor Hugo a écrit néanmoins les pieds dans l'eau au vallon de Chérisy. Si la pièce entière m'était communiquée, je la reconnaîtrais peut-être, mais deux vers, à 45 ans de distance, ne me suffisent pas. En 1821, voyageant à pied, je me suis baigné les pieds dans le ruisseau de Chérisy, et ce ravin doux, riant, à deux pas de la route brûlée du soleil, m'a laissé un charmant souvenir. » Autrement dit, Victor Hugo, eh bien, ayant tellement écrit probablement, mais ayant déjà aussi un âge avancé en 1866, ne se souvient pas, à la lecture des deux vers communiqués par Charles Ménestrel de ce poème intitulé « Vallon de Chérisy », eh bien, Victor Hugo ne se souvient pas de ce poème. Il se souvient de l'impression, en revanche, de fraîcheur qu'il a eue en se plongeant les pieds dans cette rivière. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'avoir encore la possibilité de lire ce poème, un poème touchant qui a été écrit donc en 1821, je le rappelle, c'est-à-dire un an après 1820, un an après le Vallon de Lamartine. Nous sommes donc dans une actualité littéraire lorsque Victor Hugo écrit le Vallon de Chérisy qui constitue en quelque sorte son propre vallon par rapport à Lamartine. Ô, dis, conviendras-tu, quel Dieu va te conduire, être charmant et doux, vers celui que tu plains. Astre ami, quand viendras-tu luire comme un soleil nouveau sur ces jours orphelins? Et ne t'obtiendra point, chère et noble conquête, une prise de ses vertus qu'il ne peut oublier. Il laisse au gré du vent le jonc courber sa tête, il sera le grand chêne, et devant la tempête, il sera rompre et non plier. Elle approche, il la voit, mais il la voit sans crainte. Le dieu, flot pur, berceaux épais, beau vallon où l'on trouve un écho pour sa plainte, bois heureux où l'on souffre en paix. Heureux qui peut naître au sein du vallon solitaire, naître, vivre et mourir dans le champ paternel. Il ne connaît rien de la terre, il ne voit jamais que le ciel. Quel beau vers que cette ode au vallon de Chérisy de Victor Hugo. Et c'est sur ces quelques vers que je vous quitte aujourd'hui, mes amis, en vous disant à bientôt pour une nouvelle émission d'Histoire et Mémoire et bienvenue au Musée d'Art et d'Histoire jusqu'au 18 décembre pour découvrir cette belle exposition d'encre et de papier Victor Hugo en goguette. Au revoir.